d'être reconnaissant. Et la parole nous commande, la parole de Dieu nous commande d'être reconnaissant. Oui, la parole de Dieu nous recommande, ou plutôt, il commande d'être reconnaissant à Dieu. Soyez reconnaissant, dit Paul, dans son épître aux Colossiens, chapitre 3, 15. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, dit le psalmiste David. Et si nous trouvons cette recommandation dans la Bible, cela veut dire que nous n'avons pas cette caractéristique en nous naturellement et nous sommes peut-être exactement le contraire. La culture de célébrer Thanksgiving aux États-Unis, fête d'action de grâce au Canada, est de plus en plus populaire dans le monde et nous savons que pour la plupart des personnes qui fêtent Thanksgiving est tout simplement culturel et purement commercial. Et on ajoute quelque chose comme Black Friday, où le monde s'affole pour faire des achats avec une insatiable envie pour des choses matérielles. Je ne sais pas comment les deux sont liés, mais bon, pour le vendeur, tout est lié. On peut tout faire. Le Thanksgiving, c'était le dernier jeudi, c'est toujours le dernier jeudi, le mois de novembre, le quatrième jeudi du mois de novembre. Bien sûr, nous pouvons blâmer les États-Unis pour d'avoir exporté ce mal, mais nous ne nous allons peut-être jamais reconnaître que c'est de notre cœur qui est la source de tous ces maux et de convoitises matérielles. Être reconnaissant n'est pas seulement le fait de dire merci à Dieu dans nos prières, par des simples mots. Ce que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est que c'est plutôt une attitude. Ce n'est pas une pensée qui peut surgir dans la tête pour un moment et puis oublier. Mais c'est une attitude que l'on vit jour après jour pour toute la vie. Une vie remplie de reconnaissance. Nous sommes le peuple de Dieu avec nos origines de différentes cultures de ce monde. Nous parlons plusieurs langues dans cette église. Mais nous disons tous merci par de différentes manières. Parfois avec des mots équivalents de merci en français dans la langue maternelle de chacun. Parfois avec des gestes ou simplement par l'expression visuelle. Et parfois même le silence peut exprimer autant que les mots peuvent exprimer. Je vous dis cela car d'être reconnaissant est une affaire de notre cœur. Ce n'est pas une question de langue. Le dimanche dernier, le frère Albert Zandri nous a parlé du péché de la murmure. Quelqu'un disait après le culte que c'était une prédication très dure. Et j'étais d'accord avec lui. Mais nous avons besoin d'entendre une telle prédication qui parle de notre péché, qui est enraciné dans notre cœur. Et ce sujet, car le sujet nous concerne, il nous concerne tous. Qui ne connaît pas de ce péché de murmurer? Et ce que nous allons voir ce matin pourrait être la continuation dans la même pensée. Les mauvaises herbes de murmure, de grognement, grumelés, mécontentement n'ont pas leur place dans le jardin où pousse abondamment cette merveilleuse plante d'action de grâce. Nous allons lire un passage tiré de l'évangile de Luc. Tournez avec moi, Luc 17, à partir de verset 11 jusqu'à 19. Nous allons garder ces versets comme une base pour voir ce qui est d'être reconnaissant. Luc 17, à partir de verset 11. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre Samarie et la Galilée. Comme il est entré dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, le dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vois, ta foi t'a sauvé. C'est étonnant de voir comment le bon berger qui a laissé les 99 brebis, parti pour le seul brebis perdu, puis poser cette question. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Parmi les 10 lépreux, aucun d'entre eux était mieux qu'un autre. Ils étaient tous malades. Tous les 10 étaient lépreux, tous atteints d'une maladie maudite, incurable et contagieuse dans le temps de l'histoire. Dans l'impossibilité d'approcher Jésus, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Nous voyons que Jésus ordonne leur guérison par la puissance de sa parole, tout simplement. Tous 10 lépreux furent guéris par Jésus en ce jour merveilleux. Bien sûr, Jésus savait que les 9 des 10 lépreux seraient perdus et ne se retourneront jamais vers le Fils de Dieu. Et pourtant, il pose cette question, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? C'est durant de son parcours vers le monde du calvaire qu'il a fait ce détour de chemin à la recherche de cette brebis perdue. Le seul qui est retourné. Hélas, les 9 autres lépreux ont connu Jésus comme un guérisseur seulement. Seul celui qui a retourné aux pieds de Jésus a reconnu Jésus comme le sauveur de son âme. Chacun trouve ce qu'il cherche. Si vous regardez dans le monde, mais chacun est en train de chercher quelque chose. Mais certainement, il trouve ce qu'il cherche. Il tomba sur sa face, parlant de le lépreux qui vient vers Jésus. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. L'homme a été créé par Dieu pour qu'il ait la connaissance de lui et pour lui glorifier. Être reconnaissant à Dieu et glorifier Dieu pour ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait. Et l'homme qui retournait pour remercier Jésus était un Samaritain, un étranger. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Oui, nous les enfants de Dieu, nous négligeons de montrer notre reconnaissance à Dieu. Nous oublions de dire merci. Et souvent quand on est les enfants dans la maison, nous oublions ces choses. Vous vous souvenez dans l'histoire de fils prodigue, le aîné, il était chez le père. Il n'a pas quitté le père. Mais il avait un cœur amer. Il n'avait pas un cœur rempli de reconnaissance. Ce passage de la Bible ne nous dit pas ce que ce Samaritain a dit à Jésus quand il tomba à ses pieds pour lui glorifier. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rend grâce. Il était le seul qui a démontré sa reconnaissance de Jésus. Donc nous allons voir certains points qui parlent de reconnaissance. Pour avoir la reconnaissance dans la vie, il faut aussi sacrifier. Il faut un esprit de sacrifice pour avoir cette attitude de reconnaissance dans nos cœurs. Parmi les différents sacrifices de l'Ancien Testament ordonnés par Dieu, il y avait le sacrifice d'action de grâce. Vous pouvez lire plus tard, mais en Lévitique 7, 11 à 15, nous voyons ce sacrifice ordonné par Dieu. Car l'homme pécheur ne peut pas s'approcher de Dieu sans le sacrifice. C'est une des sacrifices, c'était le sacrifice de action de grâce. En psaume 50, 23, nous lisons, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Quand nous parlons de la reconnaissance, nous ne pouvons pas faire passer cette femme de l'Ancien Testament. Elle s'appelait Anne, Anne qui était stérile. Elle pria et demanda à l'Éternel un enfant. Et l'Éternel entendit sa prière et lui donne un enfant, Samuel. Et Anne redonne à l'Éternel ce que l'Éternel l'a donné. Oui, la reconnaissance demande des sacrifices. La vie de cette femme, Anne, nous donne un enseignement très profond. Nous ne devrions rien demander à Dieu pour notre propre gloire, mais nous demandons pour la gloire de Dieu. Anne se plaça comme une vase utile au pied de Dieu, puisqu'il peut l'utiliser pour sa gloire. Anne donna ce qu'elle avait à Dieu comme la veuve avec les deux deniers. Mais Dieu a glorifié son nom à travers de la vie de Samuel, le fils d'Anne. Et vous pouvez lire la prière d'Anne, l'action de grâce d'Anne, dans 1 Samuel 2, 1 à 11. Oui, l'esprit de reconnaissance peut grandir fort dans le sol de sacrifice. Posons-nous cette question à nous-mêmes. Est-ce que je suis reconnaissant à Dieu? Si oui, qu'est-ce que m'a coûté ma reconnaissance à Dieu? Si je pense que je suis reconnaissant à Dieu, qu'est-ce que j'ai payé comme un prix pour avoir cet esprit de reconnaissance? Qu'est-ce que j'ai perdu? Un autre exemple, nous connaissons le roi David. Quand Israël était frappé par à cause de le péché de David, il a fait nombrer le peuple d'Israël et l'Éternel s'est mis en colère. Il a frappé le peuple et nous connaissons cette histoire. Et finalement, David il veut faire le sacrifice. Il veut faire le sacrifice. Et on peut lire dans 2 Samuel 24. Deuxième livre de Samuel, chapitre 24. On va lire à partir de verset 21 jusqu'à 25. Arabna dit, « Pourquoi, mon Seigneur, le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Arabna dit à David, « Que mon Seigneur, le roi, prenne l'air et qu'il lui offre le sacrifice qui lui plaira. Voir les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Arabna donne le tout au roi. Arabna dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Mais le roi dit à Arabna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et l'offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et le plaie se retira d'Israël. Vous voyez, il y a un prix à payer si nous voulons donner l'action de grâce à Dieu de tous nos cœurs. Il y a toujours un prix à payer. Et deuxièmement, suivre et servir Dieu signifie notre reconnaissance plus que des belles prières. On peut dire beaucoup de belles choses dans nos prières. On peut décrire Dieu comme il est bon, il est miséricordieux, il est Dieu de grâce. Mais notre vraie reconnaissance, l'esprit de reconnaissance dans notre cœur, il demande le service, notre service, il nous demande de le suivre fidèlement. Nous allons voir quelques exemples de la de certaines personnes dans la Bible. Et la belle-mère de Pierre, et moi je vais lire en Matthieu 8, 14, prenez pas, je vais lire. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Et notez ici, puis elle se leva et le servit. Dans plusieurs endroits dans la Bible, on peut voir ça. Et chaque fois Jésus guérit quelqu'un, il touche quelqu'un, et tout de suite, aussitôt, dans l'évangile de Marc, on voit plusieurs fois, aussitôt, il a suivi ou il a servi. Et la belle-mère, qui était couchée avec la fièvre, et Jésus, il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Donc on peut dire que je suis très reconnaissant au Seigneur. Mais le Seigneur, il peut demander ce matin, où sont les 9 autres? Peut-être il voit le seul qui est ici. Et où sont les 9 autres personnes qui étaient guéries? Le Seigneur ne nous a pas guéris, il ne nous a pas sauvés pour puisqu'on peut faire le marché le dimanche matin. Il nous a sauvés pour être à ses pieds. Une autre personne, le paralytique qui était descendu par le toit de la maison. Ses amis, il descend cet homme paralysé parce qu'il n'y a pas de chemin, il y avait de foule dans la maison quand Jésus était là. Il descend par le toit. Et je peux lire ce passage. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je pense que c'est en Matthieu, j'ai oublié de noter la référence. Et Jésus dit, prends ton lit et marche. L'homme, il était paralytique pendant des années. Il dit, prends ton lit et marche. C'est un commandement. Notre passé peut servir comme un témoignage pour raconter ce que Dieu a fait pour nous. Notre passé peut servir comme un témoignage pour raconter ce que Dieu a fait pour nous. Nous n'avons pas besoin de cacher nos cicatrices. En tant que les enfants de Dieu, en tant que chrétiens, on n'a pas besoin de cacher nos cicatrices. Ce Dieu-là, il ordonna à cet homme de prendre son lit et marcher. Et tout le monde le voit. Il peut voir le lit dans sa main, dans ses mains ou sur son épaule, en train de marcher. Il n'avait pas besoin. Il aurait pu marcher sans le lit. Oui, nous n'avons pas besoin de cacher nos cicatrices. Jésus n'a point caché les cicatrices dans ses mains. Soyons reconnaissants à Dieu et en le laissant les cicatrices de notre guérison parler la gloire de Dieu à travers de notre vie. Est-ce que nous avons honte de parler de notre passé? Cet aveugle qui était guéri par Jésus, il a dit, j'étais aveugle et maintenant je vois. C'était le plus grand témoignage qu'il a pu donner. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Oui, Bartimée l'aveugle, Luc 18, 41 à 43, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Notez, à l'instant, il recouvra la vue, et suivit Jésus en glorifiant Dieu, tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Et qu'est-ce que cet homme il fait? Il a recouvert sa vue, mais il a suivi. Il a suivi. Et ce que ça passe tout de suite après la guérison. Mais on peut poser des questions à nous-mêmes, personnellement, d'une manière personnelle. Jésus nous a guéris à un moment donné. Un jour, il nous a rencontrés. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que nous sommes en train de le suivre le plus fidèlement possible? Un autre homme, c'était le démoniaque en Marc chapitre 5. Et on voit ici, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Cet homme était guéri d'une légion de démons. Et ce qu'on voit ici, et cet homme, il demanda à Jésus la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Si nous avons reçu la grâce de Dieu, si nous étions guéris, nous étions sauvés, nous avons un devoir à faire. Cet homme, et la parole dit qu'il était bien vêtu, il était assis au pied de Jésus. Mais il voulait rester assis. Mais il avait un devoir à accomplir aussi. Donc Jésus dit, va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il eut pitié de toi. Si nous sommes reconnaissants à Dieu, nous devrions témoigner de lui, de son amour, de sa grâce, et comment il a opéré son amour, sa grâce dans notre vie, personnellement. Témoigner autour de nous la grâce de Dieu dans notre vie est aussi une façon de démontrer notre reconnaissance à Dieu. Celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour nous, d'être un témoin pour lui. Ça, c'est la volonté de Dieu. Regardons ensemble à Josué chapitre 4, versets 20 à 24. Le Seigneur, il a fait sortir son peuple d'Israël, d'Égypte, à travers des mers rouges. Après, il a fait passer le fleuve Jourdain. Et ici, nous voyons quelque chose comme un monument. Je lis à partir du verset 20, Josué 4. Josué dressa à Gilgal les douze pierres qu'il avait prises de Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, qui signifie ce pierre, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous usiez à passer, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Donc, nous chantons, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parce que nous avons la tendance d'oublier l'amour de Jésus. Nous oublions la grâce de Dieu dans notre vie. Nous oublions ce que le Seigneur il a fait dans notre vie. Donc on a besoin d'avoir des matériels, des choses concrètes. Nous devrions avoir dans notre vie des symboles. Qu'est-ce que le Seigneur il a fait dans ma vie? Et comment je garde cher ces choses dans mon cœur? Nous oublions souvent la bonté de Dieu dans notre vie. Nous oublions parfois la nature même de Dieu, qu'il est un Dieu de grâce et miséricorde. Si nous murmurons parfois, c'est parce que nous oublions la nature même de Dieu, la puissance de Dieu. Comment il nous a sauvés par sa main puissante. Les sauvés devraient parler et chanter de la gloire de Dieu, notre Sauveur. Nous devrions tout faire pour garder le souvenir de sa bonté. Jésus est dressé à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Avez-vous quelque chose dans votre vie qui parle comment Dieu vous a délivré, comment Dieu vous a sauvé? Gardons-nous quelque chose dans notre vie pour dire comment Dieu l'a, il vous a sauvé. Et une autre chose, c'est être reconnaissant face à l'inconnu. On devrait être reconnaissant à Dieu pour les choses que Dieu l'a fait pour nous. Nous ne devrions jamais oublier. Mais en même temps, on peut être reconnaissant pour les choses que nous ne connaissons pas. Qu'est-ce que ça va passer dans ma vie? Mais quand Dieu m'appelle, je devrais être reconnaissant pour ces choses. Observons la prière de Marie, la jeune fille qui devrait porter l'enfant de Jésus. Je vais lire pour vous en Luc chapitre 1, 46 à 55. Luc 1, 46 à 55. C'est une prière de louange de Marie, cette jeune fille. L'ange, il apparaît, il annonce que elle va être la mère de l'enfant Jésus. Elle va porter l'enfant Jésus. Luc 1, 46 à 55. Et Marie dit: mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureux, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé le puissant de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vivre. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Vous voyez comment a été la réaction de Marie quand elle a reçu cette annonce. Elle ne savait pas comment ça va aller les choses. Elle était fiancée à Joseph. Mais elle devrait subir beaucoup de honte et de mépris de sa famille, les gens autour de lui, autour d'elle. Mais pourtant, elle loue le Seigneur pour cette nouvelle. Et quelle est notre attitude? Nous pensons que nous sommes reconnaissants à Dieu. Est-ce que nous sommes capables de recevoir, quand Dieu nous annonce quelque chose, est-ce que nous sommes capables de recevoir la même manière que Marie l'a reçu? Comment est-il possible d'être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il va faire dans nos vies? Peut-être nous pouvons trouver la réponse à la fin de ce passage. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Marie, elle connaissait la parole de Dieu. Oui, il faut croire et obéir comme Abraham. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu la promesse et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter des morts. Les morts aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Hébreux 11. Oui, il est possible d'être reconnaissant même face à l'inconnu. Nous avons un Dieu qui est souverain et qui peut tout faire. Il connaît toutes choses, il est éternel, il est déjà dans nos demain. Nous ne connaissons pas ce que le demain va nous apporter, mais il est déjà dans nos demain. Il est déjà là en 2019, nous sommes dans le dernier mois de cette année, il est déjà là en 2019, et les siècles à venir. N'est-ce pas, cette pensée nous donne beaucoup de réconfort. Et notre Dieu est tout puissant, il est plein d'amour et de bonté, il réserve que le meilleur pour ses enfants. Notre foi en la personne et caractère de Dieu puisse nous aider à être reconnaissants face à l'inconnu. Romains 8, 28, nous connaissons par cœur. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Et une autre chose, c'est Jésus lui-même est notre modèle suprême. Jésus lui-même est notre modèle suprême. Et on voit au moins 4 ou 5 passages qui disent que comment Jésus il a agi. En Matthieu 11, 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc, il remercie Dieu pour cette révélation pour ses disciples. Hein. Et encore en Luc 22, verset 17-19, « Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez entre vous, car je vous dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, c'est deux fois, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et encore quand Jésus l'a nourri les 5000, nous lisons en Jean, évangile de Jean, chapitre 6, 11, Jésus prit les pains, rendit grâce, les distribua à ceux qui étaient assis, et leur donna de même des poissons autant qu'ils l'ont voulu. Il y a un autre incident où on voit que Jésus il rend grâce au Père, à son Père. Il ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut, et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Et notez qu'à ce point même, Lazare, il n'était pas sorti, il n'était pas ressuscité, il n'était pas sorti de la tombeau. Et Jésus, en étant homme devant le tombeau de Lazare, rend grâce à son Père devant l'inconnu. Il savait pertinemment que le Père va exaucer son prière. Après, la parole nous dit que nous devrions être reconnaissants en toutes les circonstances et situations. Soyez reconnaissants en toutes les circonstances et situations. Rendez grâce en toutes choses. En toute chose. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous savons en tant que les disciples du Seigneur Jésus-Christ que sous le terrible ombre de la crucifixion, de la croix que le Seigneur a dit ses paroles. Le Seigneur Jésus, je lis de 1 Corinthiens 11 que nous lisons souvent, le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Il savait que son corps sans péché sera percé et déchiré par les instruments de tortionnaires romains. Quand Jésus disait ces paroles à ses disciples, il savait exactement ce que c'est je ne sais pas combien de degrés nous comprenons quand nous lisons ces paroles. Mais Jésus savait exactement ce que c'est. Il savait que son corps, son péché sera percé et déchiré par les instruments de tortionnaires romains. Il savait que dans peu de temps, son corps sera vidé entièrement de son sang précieux sur cet infâme bois de Golgotha. Et pourtant, Jésus a voulu remercier le Père pour cette coupe amère. Car il est descendu pour accomplir la volonté de son Père céleste. Si nous gardons nos yeux sur Dieu, nous allons certainement faire ce que est la volonté de Dieu. Et on peut la remercier pour cette situation, pour cette occasion que Dieu peut nous donner. Nous ne remercions pas souvent Dieu pour nos épreuves, nos chagrins et nos difficultés, bien que nous sommes disposés à louer pour sa bonté. Nous ne comprenons parfois pas que même les circonstances défavorables sont des bénédictions déguisées. Le pasteur écossais George Matheson avait ce problème. Il a réalisé qu'il n'était pas aussi prêt à louer Dieu quand les choses ont mal tourné comme il était quand ils sont allés bien. Cependant, après avoir commencé à perdre la vue, il changeait à penser. Il a lutté pendant quelques mois avec ce fardeau, fatigué jusqu'à ce qu'il atteigne le point où il pouvait prier. « Mon Dieu, je ne t'ai jamais remercié pour mon épine. Je t'ai remercié mille fois pour mes roses, mais pas une fois pour mon épine. J'étais impatient d'un monde où je serai compensé pour ma croix, mais j'en ai jamais pensé ma croix comme elle-même une gloire actuelle. Apprends-moi la valeur de mon épine. » Lorsque nous comptons nos bénédictions, nous devons inclure les faiblesses, les difficultés, les fardeaux et les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Si nous le faisons, nous pourrions trouver que Dieu a utilisé nos difficultés plus que les bonnes choses pour nous aider à grandir spirituellement. Et pourquoi pas? Parce que c'est dans ces endroits difficiles que nous découvrons la suffisance de sa grâce. Dans nos épreuves, nous nous tournons vers Dieu. Comme nous dépendons de lui, nous trouvons que sa force est rendue parfaite dans nos faiblesses. Prenez un moment et pensez à la façon dont Dieu vous a conduit. Quand vous louez Dieu pour vos bénédictions, vous souvenez-vous de le remercier pour les épines. Mais souvent, on peut connecter à la reconnaissance avec des bonnes choses, avec la bonté de Dieu. Mais pas avec des choses où on peut souffrir. Mais nous devrions remercier le Seigneur même pour nos épreuves. Une anecdote avant de conclure. C'était le pire des temps. Dans la première moitié du XVIIe siècle, l'Allemagne était au milieu des guerres et de la famine et de la peste. Dans la ville de Eilenburg a vécu un pasteur du nom de Martin Ricard. Pendant une période particulièrement oppressante, Ricard a mené jusqu'à 50 funérailles par jour comme une peste a balayé la ville, et pendant que la guerre de 30 ans a semé sa propre terreur sur le peuple. Parmi ceux qui Rinkart enterrait étaient membres de sa propre famille. Pourtant, au cours de ces années de ténèbres et de désespoir, quand la mort et la destruction saluèrent chaque jour, le pasteur Rinkart écrivait 66 chansons et hymnes sacrés. Rinkart a démontré une leçon précieuse pour nous tous. La reconnaissance n'a pas d'attente pour la prospérité et de la paix. C'est toujours un bon moment pour louer Dieu pour les choses merveilleuses qu'il a fait. Ce matin, nous avons chanté ce cantique, le dernier cantique que nous avons chanté, c'est écrit par Fanny Crosby. Fanny Crosby, elle est devenue aveugle de ses deux yeux, mais elle a écrit beaucoup de cantiques. Vous pouvez trouver le nom Fanny Crosby dans le cantique de, sur les ailes de la foi. Et beaucoup de serviteurs de Dieu a travaillé dans les conditions adverses. Et c'est un parfum de bonne odeur. Que voquons-nous le plus souvent dans nos prières? Des demandes ou des remerciements? Le commentaire de la manne est beau et instructif. Je lis ça. En buvant au torrent, prenons une leçon chez les petits oiseaux qui boivent en levant très souvent la tête, comme pour rendre grâce à Dieu. Remercions continuellement notre Seigneur pour chaque expérience de la vie, chaque leçon, chaque épreuve qu'il nous donne de goûter, et profitons-en pour notre développement spirituel. Mais je ne sais pas combien de fois nous disons merci à Dieu, même pour les empêchements, même pour les difficultés, même pour les accidents. Un petit accident de voiture peut sauver notre vie. Ça peut nous garder de ne pas avancer plus pour perdre notre vie. Mais le Seigneur, il dirige toutes choses. Et nous devrions remercier le Seigneur pour toutes choses qui nous arrivent. Efforçons-nous afin que ce noble et admirable sentiment de reconnaissance se développe et manifeste plus en plus dans notre cœur et dans notre vie. Mes chers frères et sœurs en Christ, possédons-nous un esprit de reconnaissance? Réfléchissons un moment là-dessus. Combien de fois utilisons-nous le mot « merci » à la maison, au travail, à l'assemblée et envers tous ceux qui nous ont fait un bien quelconque? Est-ce que nous avons cette attitude dans notre cœur? Est-ce que nous manifestons un certain respect envers nos bienfaiteurs? Offrons-nous des présents, et si possible, de suite, ou bien les remettons-nous à plus tard? Combien de temps nous souvenons-nous de la bonté qui nous a été manifestée? Dieu, par sa bonté, par sa grâce, il nous a manifesté sa personne en Jésus-Christ. Un certain événement peut nous aider. Un peintre a pris dans son atelier une cigane pour lui servir de modèle. Dans son atelier se trouvait un splendide tableau représentant la crucifixion de Christ, préparé pour une exposition. La peintre s'aperçut que la cigane portait souvent son regard sur le tableau, mais ne comprenait sûrement pas sa signification, car elle n'était pas chrétienne. Une fois, elle se mit à pleurer devant le tableau, et quand le peintre lui demanda pourquoi elle pleurait, elle répondit par une question. Pourquoi a-t-il tant souffert? Pourquoi a-t-il tant souffert? Quand le peintre lui eut expliqué la raison, elle lui posa la question suivante. Est-il mort pour toi? Le peintre répondit que oui. La cigane me demanda ensuite, s'il est mort pour toi, que lui as-tu donné pour cela? Que lui as-tu donné pour cela? Les paroles de la cigane surprirent le peintre et l'interpellèrent. Il n'avait jamais pensé à cela. Il s'inscrivit la question de la cigane au bas du tableau et le remit pour l'exposition. Ce tableau provoqua une grande réaction. Peut-être pas à cause du tableau lui-même, mais à cause de l'inscription, il a donné sa vie pour toi. Et toi, que lui as-tu donné pour cela? Le Seigneur, il nous a donné sa vie. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Est-ce que nous sommes reconnaissants? Le psalmiste, il a chanté ainsi. Que rendrai-je à l'Éternel pour tous les biens qu'il m'a faits? Que rendrai-je à l'Éternel pour tous les biens qu'il m'a faits? Il continue. Je prendrai la coupe du salut et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je prendrai la coupe du salut et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Psaume 116, 12 et 13. Et rien que la scène de Golgotha, ce que le Seigneur il a souffert pour nous, sa mort, sa crucifixion, ça devrait nous rendre reconnaissants, profondément reconnaissants. Et si nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu, nous devrions avoir la reconnaissance dans notre cœur pour les prochains aussi. On ne peut pas être... la vie chrétienne, c'est comme une croix. La relation perpendiculaire avec Dieu et aussi horizontal avec nos prochains. Mais la question c'est, sommes-nous reconnaissants? Soyez reconnaissants, commande la parole. C'est pas une recommandation, c'est une commande. C'est une commande. C'est Dieu nous demande d'être reconnaissants. Si nous avons des autres problèmes, c'est peut-être que nous ne sommes pas reconnaissants dans notre vie. On peut plaindre de beaucoup de choses dans notre vie. On peut dire que, voilà, mes chaussures sont déchirées, mais au moins on a une chaussure. Et on peut dire que un appareil qui ne marche pas, mais on a au moins l'appareil pour faire ces choses. On peut plaindre sur les vaisselles qui sont dans la plonge, qui n'est pas lavée. Mais ça signifie qu'au moins on a mangé. Mais... on peut plaindre que le coupe il est moitié vide. Mais on devrait voir que le coupe il est moitié plein. Soyez reconnaissants. Que le Seigneur nous aide à être reconnaissants, premièrement lui, et aussi envers les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Prions.